à Rencontre spirituelle aujourd'hui. Il sera question du mystère de la Sainte Trinité. Ça peut faire peur à bien des gens, vont dire c'est trop compliqué. Mais non, ne vous en faites pas. En somme, j'intitulerai cette émission avec l'abbé Pierre Descouvemont, dont je m'inspire, puisque je profite de son beau livre « Les difficultés de la foi catholique » paru aux éditions du Cerf. Qu'apporte aux chrétiens le mystère de la Sainte Trinité? En d'autres termes, en termes un peu vulgaires, à quoi ça sert? Beaucoup de gens peuvent se demander ça. Cherchons pas à comprendre. Mais on peut chercher à comprendre un tout petit peu avec l'aide de la tradition dans l'Église, puis avec l'aide aussi des textes de Saint Jean, des textes de la Bible. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est Saint Jean qui a une façon de parler de Dieu qui est absolument révolutionnaire dans sa première épître. Au chapitre 4, verset 8, c'est un des centres de la révélation, ça. Il dit tout simplement trois mots. Il dit « Dieu est amour ». C'est tellement révolutionnaire et pourtant... C'est pas comme on l'a trop souvent répété parce que les Juifs, ces hommes de l'ancienne alliance, n'osaient pas croire à la tendresse de leur Dieu. C'est pas ça du tout, hein. La preuve, c'est le premier mot de la, on pourrait dire, de la carte de visite que Dieu donne aux Juifs dans l'Ancien Testament. Dans l'Exode, au chapitre 34, il dit « Dieu de tendresse ». Puis d'ailleurs, le mot hébreu, Raoum, évoque précisément la tendresse maternelle de Dieu. Saviez-vous ça? Tendresse maternelle de Dieu pour son peuple, Raoum. Ce mot vient de la racine en juif, en hébreu, Réhem, qui veut dire, désire, qui désigne l'utérus. Mais ce qui compte dans cette révélation de Saint Jean, qui est contenue dans Saint Jean, dans son épître, c'est parce que les chrétiens ont été les premiers à croire que Dieu est amour en lui-même, que sa vie propre consiste en relations interpersonnelles. C'est tout à fait différent du judaïsme et de l'islam, évidemment. Non, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. En lui-même. Très différent. Vous savez, quand les gens disent « Ah, il n'y a pas de différence entre les religions », eh bien, ça n'est pas vrai. Nous sommes très près les uns des autres, nous sommes des frères, nous croyons en Dieu. Mais reste que cette révélation de Dieu bouleverse le cœur des chrétiens qui comprennent tout cela. Dans la mesure où on peut le comprendre, c'est par la grâce de Dieu qu'on peut en vivre. Quand un chrétien trace sur lui le signe de la croix, en prononçant le nom des trois personnes divines, il résume en une espèce de, vous avez pensé à ça, peut-être une espèce d'audiovisuel, finalement, extrêmement... Bref, extrêmement synthétique, il résume le cœur de sa foi, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles affirment qu'il y a trois personnes en Dieu, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On dit jamais « au nom du Père » et « au nom du Fils » et « au nom du Saint-Esprit », jamais. Mais c'est bien « au nom », un seul nom, là, c'est « A-U » puis « R ». Nous sommes des frères, nous croyons en Dieu. Mais reste que cette révélation de Dieu bouleverse le cœur des chrétiens qui comprennent tout cela. Dans la mesure où on peut le comprendre, c'est par la grâce de Dieu qu'on peut en vivre. Quand un chrétien trace sur lui le signe de la croix, en prononçant le nom des trois personnes divines, il résume en une espèce de, vous avez pensé à ça, peut-être une espèce d'audiovisuel, finalement, extrêmement... Bref, extrêmement synthétique, il résume le cœur de sa foi, hein, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles affirment qu'il y a trois personnes en Dieu, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On dit jamais « au nom du Père » et « au nom du Fils » et « au nom du Saint-Esprit », jamais. Mais c'est bien « au nom », un seul nom, là, c'est A-U puis N-O-M, il n'y a pas d'X ni de S. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quant aux gestes que l'on fait, bien ça, évidemment, ça rappelle le drame du calvaire à travers lequel Dieu a manifesté le mieux la folie de son amour pour nous. D'ailleurs, C'est Saint Jean, comme je vous ai dit, qui a formulé cette célèbre équation-là. Dieu est amour. C'est le seul apôtre à avoir été témoin oculaire du calvaire. Les autres étaient allés se cacher. Bien oui. Alors les chrétiens ne sont nullement condamnés à accepter les mystères, comme le mystère de la Trinité, sans essayer de les comprendre. On peut vraiment en acquérir quelque intelligence, il me semble. Cette intelligence va nourrir notre prière. Ça va relancer, je l'espère, notre amour, car la condition chrétienne dans laquelle nous sommes plongés avec joie consiste essentiellement à vivre comme des enfants. Au sein même de quoi? De la Trinité. Oui, nous sommes dans la Trinité, en redisant avec la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, justement, Carmélite de Dijon, dont je vous ai parlé hier, brièvement. La Trinité, voilà notre demeure, notre chez nous, la maison paternelle, d'où nous ne devons jamais sortir. Le maître l'a dit un jour, l'esclave, c'est très beau ce qu'elle rappelle, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, ben non, il va coucher ailleurs, mais le fils y demeure toujours, le fils demeure toujours avec son père, dans la maison. Mais n'imaginons pas que la contemplation du mystère trinitaire soit réservée aux carmélites, comme Élisabeth de la Trinité. Il suffit de parcourir les sermons pour les catéchèses du simple curé d'Ars, patron des prêtres séculiers, pour voir à quel point ses auditeurs l'entendaient souvent revenir sur ce thème. Ah, si les prêtres nous parlaient davantage de la Trinité, comme le curé d'Ars, il y a un prêtre qui le fait au Jésus, le Père Leblond, magnifique. Et sur la première page de son bréviaire, Saint Jean-Marie Vianney avait fait coller une image de la Sainte Trinité. On peut très légitimement, à partir de ce qui nous est révélé dans l'Évangile, surtout, se représenter la vie et la joie. Oui, la joie de chacune des personnes divines. Cette joie, ils la vivent en nous. Puisque, comme le curé d'Ars aimait justement le dire, notre âme, c'est un petit ciel. Notre cœur est habité par une joie infinie, la joie même de Dieu. Saint Paul parle souvent du mystère trinitaire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. Nos messes commencent comme ça. Ben oui, l'Eucharistie, depuis le Concile. Il dit aussi, dans la première épître aux Corinthiens, il y a diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et il dit aussi, dans l'épître aux Éphésiens, il chante souvent sa joie d'aller vers le Père. Là-dedans, c'est magnifique. Il chante ça dans l'élan de l'esprit. Dans cet élan que le Fils nous communique, il dit, « Par lui, nous avons, en un seul esprit, libre accès auprès du Père. » Ça peut pas être plus trinitaire. « Par lui, nous avons, en un seul esprit, libre accès auprès du Père. » C'est ça la messe au fond, hein. « Par lui, Jésus-Christ, le Fils éternel, nous avons, en un seul esprit, libre accès auprès du Père. » C'est ça la messe. C'est ça l'Eucharistie. Et dans l'Épître aux Galates, il dit, « La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Oh, je vous recommanderais, pour ceux qui aiment la théologie, de lire un beau livre paru il y a même pas 10 ans, « La vision de la Trinité chez Bellarmin » de Georges Tavard. Et au début, justement, il parle du mot « Abba ». Oh, c'est beau, premier chapitre, très, 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 très beau. Bon, revenons à la Trinité. La joie du Père, je vous ai parlé de la joie de chacune des personnes divines, mais la joie du Père, oui, il dit, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui je me complais entièrement. » Vous savez, c'est dans le moment du baptême de Jésus. « Toute la joie, toute la vie du Père est d'engendrer son Fils, de toute éternité, de le regarder et d'en être aimé, éternellement. » La joie du Père, c'est de donner. S'il y a dans le cœur des pères et des mères un tel désir de donner la vie, là, puis d'apporter bonheur et tendresse à leurs enfants, faut pas s'en étonner, ils sont créés à l'image d'un Dieu qui est père, avec un cœur de mère, et de qui toute paternité tire son nom. C'est dit aux Éphésiens. Cependant, alors que nos parents ont été eux-mêmes enfants avant d'être parents, mais notre Père des cieux n'est que Père. C'est Tertullien qui disait « Nemo tam pater ». Personne n'est aussi Père que lui. Personne n'est aussi Père que lui. Il ne reçoit l'être de personne. Il ne dépend de personne. Il n'est que source. Il est l'absolu. Mystère qui donne le vertige et qui nous émerveille. Depuis toujours, le Père existe par lui-même. Il est. Il est. Mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, le Père le donne intégralement à quelqu'un d'autre, c'est son Fils. Sans rien perdre de ce qu'il est. C'est sa joie. C'est sa vie. C'est un mystère inouï de générosité et de puissance. Une générosité qui n'est pas le résultat d'une décision difficile, pas du tout. Le Père ne peut pas faire autrement, c'est dans sa nature. Il est ainsi. Quand Jésus disait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il définissait indirectement la joie de son Père. Pour encourager les chrétiens de Corinthe, d'ailleurs, à être généreux dans la collecte qu'il organise à travers les églises pour les pauvres de Jérusalem, c'est pas d'aujourd'hui qu'on quête, hein, pour les pauvres, eh bien, Saint Paul, leur rappelle le mot des Proverbes, chapitre 22. Dieu aime celui qui donne en riant. Mais c'est pas tout, ça. Parce que la traduction latine est encore plus expressive. Saviez-vous ça? Hilarem datorem diligit Deus. C'est-à-dire, Dieu aime celui qui donne avec hilarité. Donner avec hilarité. Faudrait pas qu'on se mette à rire comme ça dans nos églises en mettant un bon billet de banque dans l'assiette. Oui, Dieu aime ceux qui lui ressemblent. C'est dans une explosion de joie que le Père donne la vie à son Fils. Et comme le Père de la parabole d'enfant prodigue dont je vous parle souvent, il lui dit, « Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. » C'est un don sans réserve et sans intermittence. C'est un don éternellement joyeux qu'il y a entre le Père et le Fils. Et puis, la joie du Père, c'est de s'extasier. Ben oui, la joie du Père, c'est aussi de contempler sans cesse cet amour de Fils. Ah, qu'il engendre le reflet de sa propre splendeur. Il n'y a pas de narcissisme en Dieu. Le Père ne se regarde absolument pas lui-même. C'est en son Fils qu'il contemple ce qu'il est. C'est en lui qu'il se connaît et qu'il s'aime. Le Père ne se lasse pas d'admirer la merveilleuse beauté de son Fils. Jaillissement perpétuel de son éternelle jeunesse. Oui, tu es mon Fils bien-aimé en qui je mets toutes mes complaisances. Et vous connaissez cette parole. Mais cette extase trinitaire nous fait comprendre que les êtres humains, nous ne saurions être heureux en demeurant solitaires. Hein? Nous sommes créés à l'image d'un Dieu communion. Nous ne pouvons vivre à part entière qu'en vivant avec et pour quelqu'un d'autre, pour la plupart d'entre nous. Comme le disait un jour un jeune enfant, « Aimer, c'est quand on est heureux de être à deux. C'est aussi quand on est heureux de être à plusieurs, parce que c'est triste de être à tout seul. » Évidemment que on peut vivre heureux en étant seul, comme les ermites, les chartreux, comme des célibataires aussi, ou des époux séparés par la mort. Encore faut-il que cette solitude soit habitée par une présence. Et la joie du Père, c'est aussi d'être aimé. La joie du Père, c'est enfin de voir avec quel élan de reconnaissance le Fils se tourne vers lui. Un élan qui est l'Esprit-Saint en personne. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ce merci éternel de son Fils comble son cœur de père. Il ne connaît pas la déception que connaissent certains parents devant l'ingratitude de leurs enfants. Il est vraiment ce Dieu bienheureux dont nous devons annoncer l'existence et goûter la présence. Alors, je vous ai parlé de la joie du Père, qui est de donner puis de s'extasier. Or, la joie du Fils, On la retrouve dans Matthieu au chapitre 11. « Père, je te bénis. » Puisque nous sommes appelés donc à devenir pleinement fils dans la famille trinitaire, fils et filles, mais il importe que nous comprenions en quoi consistent les deux aspects essentiels de la joie du Fils unique, c'est d'accueillir tout d'abord le don du Père. La joie du Fils éternellement est d'abord de se recevoir sans cesse de son Père. Lumière née de la lumière, hein, on chante ça parfois, si on le chantait plus souvent, ce beau credo, que c'est beau, hein. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Alors, je pense que si j'étais curé, je le ferais chanter tous les dimanches, ou à peu près. Il est lumière, né de la lumière, il reçoit de son Père tout ce qu'il est. Le Fils vit donc dans une attitude de dépendance radicale vis-à-vis de son Père, hein. C'est-à-dire la messe, évidemment, en l'honneur de la très sainte Trinité de Mozart. C'est interprété par un chœur de Cologne, du Collegium Carthusianum, c'est-à-dire le collège chartreux ou cartusien, si vous préférez. C'est un disque Veritas. Alors, je vous ai parlé de la joie du Père, qui est de donner puis de s'extasier. Or, la joie du Fils, on la retrouve dans Matthieu au chapitre 11. « Père, je te bénis. » Puisque nous sommes appelés donc à devenir pleinement fils dans la famille trinitaire, fils et filles, mais il importe que nous comprenions en quoi consistent les deux aspects essentiels de la joie du Fils unique, c'est d'accueillir tout d'abord le don du Père. La joie du Fils éternellement est d'abord de se recevoir sans cesse de son Père. Lumière née de la lumière, hein, on chante ça parfois, si on le chantait plus souvent, ce beau credo, que c'est beau, hein. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Alors, je pense que si j'étais curé, je le ferais chanter tous les dimanches, ou à peu près. Il est lumière, né de la lumière, il reçoit de son Père tout ce qu'il est. Le Fils vit donc dans une attitude de dépendance radicale vis-à-vis de son Père, hein. On pourrait dire qu'il a les mains toujours ouvertes devant lui. Mais des mains, en même temps qu'elles sont toujours comblées. Avez-vous déjà pensé à ça quand on chante ce chant un peu charismatique, là, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, mais nos mains sont pleines. Elles sont pleines de la présence de la Trinité, pleines de la joie. Nos mains sont pleines. Elles sont pleines pour qu'on puisse le donner à tous ces gens qui n'ont pas la joie de participer en choix à peu près. Il est lumière, né de la lumière, il reçoit de son Père tout ce qu'il est. Le Fils vit donc dans une attitude de dépendance radicale vis-à-vis de son Père. C'est-à-dire la messe, évidemment, en l'honneur de la très sainte Trinité de Mozart. C'est interprété par un chœur de Cologne, du Collegium Carthusianum, c'est-à-dire le collège chartreux ou cartusien, si vous préférez. C'est un disque Veritas. Alors, je vous ai parlé de la joie du Père, qui est de donner puis de s'extasier. Or, la joie du Fils, on la retrouve dans Matthieu au chapitre 11. « Père, je te bénis. » Puisque nous sommes appelés donc à devenir pleinement fils dans la famille trinitaire, fils et filles, mais il importe que nous comprenions en quoi consistent les deux aspects essentiels de la joie du Fils unique, c'est d'accueillir tout d'abord le don du Père. La joie du Fils éternellement est d'abord de se recevoir sans cesse de son Père. Lumière née de la lumière, hein, on chante ça parfois, si on le chantait plus souvent, ce beau credo, que c'est beau, hein. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Alors, je pense que si j'étais curé, je le ferais chanter tous les dimanches, ou à peu près. Il est lumière, né de la lumière, il reçoit de son Père tout ce qu'il est. Le Fils vit donc dans une attitude de dépendance radicale vis-à-vis de son Père. On pourrait dire qu'il a les mains toujours ouvertes devant lui. Mais des mains, en même temps qu'elles sont toujours comblées. Avez-vous déjà pensé à ça quand on chante ce chant un peu charismatique, là, les mains ouvertes devant toi, Seigneur? Mais nos mains sont pleines. Elles sont pleines de la présence de la Trinité, pleines de la joie. Nos mains sont pleines. Elles sont pleines pour qu'on puisse le donner à tous ces gens qui n'ont pas la joie de participer à cette grande foi qu'est la foi chrétienne. Quand Jésus proclame dans l'Évangile « Heureux les pauvres », il parle en connaissance de cause parce qu'en tant que fils, il est le pauvre par excellence. Bien oui, pauvreté qui n'est accompagnée chez lui d'aucun sentiment d'infériorité quand même, car il n'est pas moins Dieu que son Père. Recevant tout de lui, il ne lui est pas inférieur. Aucune inégalité entre eux. Le fils n'est donc nullement jaloux de cette perpétuelle dépendance, d'autant qu'il se rend compte de l'amour et de la joie avec lesquels son père lui donne tout ce qu'il est. Il lui donne tout ce qu'il est. Bien mieux, le père ne peut exister comme père qu'en engendrant son fils. La primauté du père, ça écrase pas le fils. Il est la source, mais disons qu'il ne s'en vante pas. Pas plus que la jalousie, l'orgueil n'existe en Dieu. Il n'y a pas de ça en Dieu. Le Père ne cesse de redire à son Fils, « Tu es aussi nécessaire que moi. Sans toi, je ne serai pas Père. » Alors l'être reçu par le Fils unique n'est pas comme le nôtre, là, une existence créée. C'est pas une existence, comme on dit en langage plus savant, contingente. Non, non, c'est un être divin, le même être que celui du Père, car il n'y a en Dieu qu'un seul et même être, une seule et même intelligence, une seule et même volonté, une seule et même activité. Une autre joie du Fils, c'est de rendre grâce. Ça va avec le fait d'accueillir le don du Père. Recevant tout son Père, le Fils ne cesse de s'élancer vers lui dans un grand élan eucharistique, d'action de grâce. C'est ça que ça veut dire, eucharistique. « Abba, dit-il, papa, papa, Père, toi qui es la source de mon être et de ma joie, je te rends grâce, comme tu es bon, comme tu es bon. » Et ça, ça doit être notre sentiment le plus profond, constamment jusqu'à notre dernier souffle, parce que ce sera ça pendant l'éternité. Père, toi qui es la source de mon être et de ma joie, je te rends grâce, comme tu es bon. Et c'est en regardant son Père, en contemplant son amour, que le Fils se connaît et s'aime lui-même. Comme celle du Père, la joie du Fils est toute, je dirais, extatique. Une immense extase éternelle. Les mains qu'il ouvre, il n'y a pas de... on parle de ses mains. Les mains qu'il ouvre devant son Père... pour tout recevoir de lui, il les élève aussi pour tout lui offrir, pour tout lui rendre. Le Fils est incapable de se regarder lui-même. Il est entièrement tourné vers le Père. Il ne cesse de lui dire « Abba ». Il n'y a pas plus de narcissisme chez le Fils que chez le Père. J'en ai parlé tout à l'heure. Et quand il vient sur terre, là, le Fils, son désir est de transformer les hommes... les femmes en adorateurs du Père. C'est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 4. Il veut que la symphonie qui ne cesse de chanter à son Père passe dans le cœur de ses frères et de ses sœurs. Et cette symphonie perpétuelle, merveilleuse, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint, tout simplement. Mais oui. Alors quelle est la joie de l'Esprit Saint, la troisième personne? Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est dans Saint Jean, chapitre 17, ça, oui. En Dieu, l'élan réciproque d'amour qui fait s'extasier le Fils et le Père l'un devant l'autre est une personne, et ça de toute éternité. C'est pas facile parler de tout ça parce que c'est dans nos mots d'homme. Nous sommes de petits êtres sur une petite planète. Comme j'ai hâte d'être de l'autre côté pour ne plus avoir à parler de ça, mais d'en être comblé. Alors, je risque une comparaison. Il arrive que des époux parlent de leur amour comme d'une réalité en quelque sorte distincte d'eux. Vous savez? Ils se souviennent, bon, avec émotion, là, du moment où leur amour est apparu, où il est né. Ils ont conscience de l'avoir senti grandir et mûrir à travers les ans. Les époux sont fiers de l'avoir jalousement préservé de tous les dangers qui ont parfois menacé son existence. Leur amour est toujours là, Et quand ils connaissent la joie d'avoir un enfant, mais celui-ci leur apparaît comme quoi? Comme le fruit. C'est l'expression puis le spectacle vivant de leur amour. Bon, cette analogie un peu lointaine de l'amour qui fleurit dans un couple peut nous aider à entrevoir le mystère de l'amour qui unit le Père et le Fils au sein de la famille divine. À condition de ne pas considérer l'Esprit Saint comme l'enfant de la famille, là, il faut pas faire ça. Ben non, l'Esprit n'est pas engendré par le Père et le Fils, il procède d'eux. Il procède d'eux comme l'expression, je dirais, permanente de leur amour. Quand le Père murmure à son Fils, « Mon enfant », ce murmure, cette extase d'amour, c'est l'Esprit Saint. Et quand le Fils murmure à son Père, « Abba, papa », ce murmure, cet émerveillement d'amour, c'est le même Esprit Saint. Les pères de l'Église ont multiplié les comparaisons pour évoquer cette réalité vivante de l'Esprit au sein de la vie trinitaire. Il est l'élan d'amour, oui, l'élan d'amour du Père vers le Fils et du Fils vers le Père. C'est la musique qu'ils se chantent tous les deux, c'est le baiser qu'ils se donnent. On pourrait dire aussi qu'il est le sourire perpétuel qui ne cesse de s'adresser. C'est la fête et la joie même de leur amour. Mais là, je vous ai parlé beaucoup de la Trinité en des termes bien humains, parce que je voudrais pas quand même là transposer dans ce qu'on pourrait appeler le mystère de la vie intime de Dieu nos façons de parler trop, puis nos catégories, là, où on parle d'une cause, puis d'un effet, puis tout ça. Parce que l'Esprit Saint, n'est pas le produit d'une activité préalable là, du Père puis du Fils. Il vient pas après. Il est l'amour même avec lequel le Père ne cesse d'engendrer son Fils de toute éternité, et avec le fil avec lequel le Fils ne cesse de se recevoir du Père puis de s'élancer vers lui. C'est un tourbillon éternel, quoi. Je sais pas comment dire ça. Je trouve pas de mots. Le Saint-Esprit, c'est pas l'admiration réciproque qui serait consécutive, si on peut dire, à l'engendrement du Fils par le Père. Non, non. Il est l'amour même, puis d'une activité préalable là, du Père puis du Fils. Il vient pas après. Il est l'amour même avec lequel le Père ne cesse d'engendrer son Fils de toute éternité, et avec le fil avec lequel le Fils ne cesse de se recevoir du Père puis de s'élancer vers lui. C'est un tourbillon éternel, quoi. Je sais pas, après. Il est l'amour même avec lequel le Père ne cesse d'engendrer son Fils de toute éternité, et avec le fil avec lequel le Fils ne cesse de se recevoir du Père puis de s'élancer vers lui. C'est un tourbillon éternel, quoi. Je sais pas comment dire ça. Je trouve pas de mots. Le Saint-Esprit, c'est pas l'admiration réciproque qui serait consécutive, si on peut dire, à l'engendrement du Fils par le Père. Non, non. Il est l'amour même qui préside à cet engendrement, qui l'inspire, qui le motive. Puis ni le Père ni le Fils n'existeraient sans cet amour. Mais quand même, on peut dire dans nos mots, c'est toujours dans nos mots que je parle. Le Père est le commencement, mais au commencement, il y a l'amour trinitaire. Il y a l'Esprit. Comme le dit très bien Saint Maxime le Confesseur qui dit ça, « Dieu le Père, mu par un éternel amour, a procédé à la distinction des personnes. » Mais de toute éternité. Vous savez, c'est un mystère, c'est incompréhensible. L'éternité, ça nous échappe complètement. Je ne m'en fais pas là-dessus. Ne me téléphonez pas pour me dire que vous avez rien compris. Moi non plus, je ne comprends pas l'éternité. C'est difficile. Mais comme il le sera dans l'Église, à l'Esprit Saint et dans la vie trinitaire elle-même, une force explosive. Et c'est une force unifiante. Il unifie. Dans l'Esprit, le Père engendre un autre lui-même, mais l'Esprit est aussi celui qui ramène sans cesse l'un vers l'autre, le Père et le Fils. Il est le fond même du mystère de Dieu, qui ne peut être qu'en étant à la fois pluriel et un. Un seul Dieu, trois personnes. Trois personnes, un seul Dieu. Mais trois personnes divines, réalise le rêve de toute communauté humaine, familiale ou politique. Ne faire qu'un, tout en restant plusieurs. L'unité dans la diversité. Hein. L'utopie chez les hommes et les femmes est réalisée chez Dieu. Les trois personnes ne forment tellement qu'un qu'elles n'ont à elles trois qu'une seule intelligence, une seule volonté, une seule activité. C'est trop peu de dire qu'elles prennent leurs décisions à l'unanimité. Il n'y a qu'une seule parole en Dieu, celle que le Père prononce avec amour dans l'élan de l'Esprit. Quand je dis parole, c'est P avec un P majuscule. Alors je répète, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils éternel, la parole. Au commencement était le Verbe, et le Verbe c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était en Dieu. C'est le début de l'évangile de Saint Jean, hein, qui trouble nos frères témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité du Christ. Elle est énoncée dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était la parole était en Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné de devenir enfants de Dieu. C'est nous qui l'avons reçu. Alors donc, c'est trop peu de dire qu'elles prennent leurs décisions à l'unanimité, parce qu'il n'y a qu'une seule parole en Dieu, celle que le Père prononce avec amour dans l'élan de l'Esprit. Alors rien d'étonnant si l'on trouve dans le cœur des hommes le désir de réaliser des communautés où soit sauvegardée la personnalité de chacun puis l'unité entre tous, hein, c'est ça, toutes ces communautés, ces groupes. Nous sommes créés à l'image de la Sainte Trinité. Mais oui, alors on comprend aussi pourquoi Jésus désire tant que ses disciples vivent dans le respect des dons de chacun et dans la volonté de ne faire qu'un en même temps. Hein. C'est une manière privilégiée pour l'Église de manifester le mystère trinitaire qui l'habite. Hein. Ah, chère Église, l'Esprit est à la fois la force centrifuge qui pousse les membres de l'Église à se disperser aux quatre coins de l'horizon pour prêcher, pour témoigner. C'est les portes aussi à s'y spécialiser. Puis c'est la force, l'Esprit Saint, c'est la force centripète qui rassemble tous ses membres en un seul corps. Pas des églises, je regrette de le dire, mais dispersées comme ça, séparées. Je suis allé chez des amis que j'aime beaucoup, des Arméniens orthodoxes qui ont leur église nationale séparée. Ça me fait toujours du chagrin. Je sens toujours qu'ils sont tellement catholiques au fond, tout en étant très orthodoxes, tellement fidèles à la foi. Pourquoi être séparés? Mon Dieu, Père, que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean. Alors, il nous est facile de répondre maintenant à la question posée au début de l'émission, hein? Qu'est-ce que ça apporte aux chrétiens, le mystère de la Sainte Trinité? Qu'est-ce que ça apporte? Et voici la réponse. C'est la joie de se savoir habiter en permanence par un océan d'amour. Hein? Pensons à Thérèse l'Enfant Jésus. Pensons à Marie Guérin, hier sa cousine. Pensons à tous ces saints qui se savent habiter en permanence par un océan d'amour et qui répondent à cet océan d'amour. Qu'est-ce que ça nous apporte en plus? Mais la joie de communier à la vie même du Fils bien-aimé. La joie de communier, puis de participer à son double mouvement filial, hein? C'est-à-dire nous ouvrir avec lui au débordement, pour prêcher, pour témoigner. Ça les porte aussi à s'y spécialiser. Puis c'est la force, l'Esprit Saint, c'est la force centripète qui rassemble tous ses membres en un seul corps. Pas des églises, je regrette de le dire, mais dispersées comme ça, séparées. Je suis allé chez des amis que j'aime beaucoup, des Arméniens orthodoxes qui ont leur église nationale séparée. Ça me fait toujours du chagrin. Je sens toujours qu'ils sont tellement catholiques au fond, tout en étant très orthodoxes, tellement fidèles à la foi. Pourquoi être séparés? Mon Dieu, Père, que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean. Alors, il nous est facile de répondre maintenant à la question posée au début de l'émission. Hein? Qu'est-ce que ça apporte aux chrétiens, le mystère de la Sainte Trinité? Qu'est-ce que ça apporte? Et voici la réponse. C'est la joie de se savoir habité en permanence par un océan d'amour. Pensons à Thérèse l'Enfant Jésus. Pensons à Marie Guérin, hier sa cousine. Pensons à tous ces saints qui se savent habiter en permanence par un océan d'amour et qui répondent à cet océan d'amour. Qu'est-ce que ça nous apporte en plus? Mais la joie de communier à la vie même du Fils bien-aimé. La joie de communier, puis de participer à son double mouvement filial, hein? C'est-à-dire nous ouvrir avec lui au débordement de l'esprit dans notre cœur, puis de bondir, oui, de bondir, de danser dans l'élan de ce même esprit, en louange d'action de grâce. Qu'est-ce qu'on a à être si triste quand on devrait être si joyeux? Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une grande danse qui se perd dans la Trinité. C'est une danse trinitaire, dirait-on. Nos frères d'Orient, orthodoxes ou catholiques de rite orientaux, ils appellent ça la péricorèse. Mais oui, ils pensent à ça, eux autres. Bien-aimés frères, c'est la danse trinitaire dans laquelle nous sommes tous invités à entrer. Alors, si nous dansions durant la messe dans nos cœurs, danser à l'intérieur, oh, ça ne s'agit pas de bouger, il ne s'agit pas de crier, de hurler, de sauter sur les bancs, mais de faire comme si à l'intérieur de nous, d'être joyeux, dressé debout, acclamant, joyeux d'être avec Dieu. Oh, très sainte Trinité, oui. Une carmélite qui n'était pas toute jeune, confiait un jour, lorsque je suis tenté de me laisser aller à la tristesse, eh bien je m'assieds dans ma cellule et je pense à la joie du Dieu qui m'habite. Oui, quels que soient les soucis puis les épreuves de notre existence, nous pouvons reprendre à notre compte la prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, qui est tellement belle cette prière, je vous en lis une petite partie. Ô mon Dieu Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Alors, on sait tous que la grande méthode de la théologie, c'est d'éclairer l'immuable et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Alors, on sait tous que la grande méthode de la théologie, c'est d'éclairer les mystères les uns par les autres. Les mystères, les choses difficiles à comprendre ou qu'on ne peut pas comprendre. Comme l'écrivait Paul Claudel, d'ailleurs, dans la préface qu'il a composée pour « À la trace de Dieu » de Jacques Rivière, j'ai déjà parlé de ça. Ce livre que nous lisions, nous autres, quand on était jeunes, il écrit « Les mystères s'expliquent moins par eux-mêmes qu'en expliquant tout le reste. Comme une lampe se prouve moins par sa mèche que par sa lumière. » Hein, c'est vrai, ça. Alors, on va le vérifier en constatant que le mystère trinitaire s'éclaire d'une façon très merveilleuse de multiples aspects de notre condition humaine. De la gratuité absolue de l'acte créateur qui nous a fait. Et le caractère relationnel de l'être humain. L'être humain s'aperçoit vite qu'il n'est pas fait pour rester seul, je vous l'ai dit, mais pour vivre avec les autres et pour eux. Pas de bonheur sans cette joie fondamentale d'aimer puis d'être aimé. Ça s'explique, nous sommes créés à l'image d'un Dieu qui n'est pas célibataire, qui n'est pas solitaire comme le Dieu des Juifs ou des musulmans, mais dont la joie, dont la vie est d'être en relation avec un autre, en extase devant lui. L'importance aussi que les hommes accordent à l'amour, hein, les hommes accordent une grande valeur à la qualité de leurs amitiés. Hein, on le sait, les hommes et les femmes ont besoin d'amis. Puis nous accordons tous, ou presque, une grande valeur à la réussite de nos amours, ou de notre amour. Mais nous nous rendons compte assez vite que c'est une œuvre de longue haleine et qui n'est jamais achevée. La plupart De nos poèmes et de nos chansons célèbres nos espoirs, nos déceptions, nos joies qu'on y rencontre dans ces recherches de l'amour. Et les chrétiens connaissent la raison de cette place centrale qu'occupe l'amour dans l'idée que les hommes et les femmes se font du bonheur. En Dieu même, eh bien l'amour est une personne. L'Esprit Saint, c'est l'admiration que ne cesse d'avoir l'un pour l'autre, le Père et le Fils. L'Esprit Saint, c'est la musique même de leur amour. Ensuite, il y a l'idéal de toute communauté humaine, et c'est l'unité dans la diversité. Trois personnes divines réalisent de façon absolument fantastique le rêve de toute communauté. Il y a là un pluralisme qui respecte la personnalité de chacun, sans nuire à l'unité profonde entre les membres du groupe. C'est une unité totale. C'est l'idéal de tous les couples, ne faire que tout en restant deux. Ne tomber ni dans l'amour fusionnel, ni dans une simple coexistence plus ou moins pacifique. Ici encore, on comprend mieux ce désir profond du cœur humain. Si on le met en relation avec le mystère trinitaire, les trois personnes divines ne forment littéralement qu'un seul être. Or, les hommes et les femmes n'atteindront qu'au ciel l'idéal d'unité parfaite auquel ils aspirent, définitivement plongés dans l'océan trinitaire. Ah, là, nous ne ferons plus qu'un. Jésus nous l'a promis dans Jean, chapitre 17. Puis, il y a la joie de toute activité créatrice. Saint Augustin a développé, de façon admirable, l'analogie qu'on peut trouver entre le mystère trinitaire, puis la structure même de notre esprit. Pensez-y deux secondes, c'est vrai, ça, Saint Augustin a bien raison. Quand on conçoit des mots, des poèmes, des œuvres littéraires, une belle lettre, etc., dans lesquelles nous nous exprimons, on ne peut s'empêcher de les regarder ensuite avec amour et cette activité créatrice de l'esprit humain, mais c'est en quelque sorte le reflet de l'acte éternel par lequel le Père engendre son Verbe, sa parole, et le contemple. Le Père est, pour ainsi dire, disons, le modèle des écrivains, ou de ceux qui créent de la belle musique ou des chansons. Saint Augustin, en faisant cette comparaison, est toujours d'actualité. Un artiste peintre disait qu'en regardant ses toiles, il comprenait mieux avec quel amour Dieu devait s'extasier devant son Fils bien-aimé et tous ses autres enfants. Oui, il s'extasie devant nous. Mais la comparaison est forcément imparfaite, car elle n'exprime pas l'élan du Verbe vers son Père. Le tableau n'a pas d'élan vers son peintre. Puis il y a la différence fondamentale entre dépendance et humiliation. Le Fils dépend éternellement du Père, puis il ne cesse de recevoir de lui tout ce qu'il est. Et pourtant, il ne lui est nullement inférieur, il n'est nullement humilié de dépendre de son Père dans son être, puis de recevoir perpétuellement de lui. Si les chrétiens méditaient davantage cette vérité, ben on ne les verrait pas s'attrister si souvent d'avoir à dire merci. Parce qu'en recevant un cadeau de quelqu'un, je ne devrais pas me sentir inférieur à lui, surtout si je sens tout l'amour qui inspire ce don. Il m'arrive souvent de faire des cadeaux, des dons, des choses. Aucun remerciement, rien. Pas un téléphone, pas une lettre, pas un mot. C'est drôle. Mais c'est pas grave. Moi aussi, j'oublie de remercier Dieu. Et à bien plus forte raison, la contemplation du Fils accueillant perpétuellement du Père, son être de Fils unique, ça doit nous aider à recevoir dans l'action de grâce notre être, nous aussi, de créature. Nous sommes créés et on doit chanter notre joie, se mettre à genoux devant le Père pour reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de lui. C'est pas humiliant, ça. C'est bon de reconnaître la source paternelle qui ne cesse de nous créer. Ah oui, il est juste et bon de crier ça en toujours et en tout lieu, comme on dit au début des préfaces. C'est juste et bon de nous recueillir au centre de nous-mêmes et de nous abandonner avec confiance dans les mains très douces de celui qui nous a modelés, qui nous a fait. Il y a aussi la gratuité absolue de l'acte créateur. Ceux qui ne croient pas au mystère de la Trinité, nos frères juifs, nos frères musulmans, sont tentés de penser qu'en créant le monde, Dieu tout à coup découvre une joie qu'il ne connaissait pas encore. Celle d'avoir tout à coup un vis-à-vis à regarder, à contempler, à aimer, c'est nous, ça. Mais nous, les chrétiens, nous savons au contraire que Dieu n'a pas besoin de créer le monde pour connaître la joie d'aimer et d'être aimé. Dieu ne crée pas le monde pour sortir de la solitude d'un célibat éternel. En lui-même, il est amour. Je vous l'ai dit dès le début, puis je continue à vous le dire, puis je ne cesserai jamais de croire en cette merveille. En lui-même, il est amour, hein? Vérité magnifique, qui nous aide à mieux comprendre l'absolue gratuité de l'acte créateur par lequel nous sommes là. Si Dieu crée le monde, ce n'est pas par besoin de se donner les joies d'une paternité qu'il ne connaîtrait pas autrement. Puisque déjà il les réalise dans sa vie divine, et c'est uniquement pour que des milliards d'êtres que nous sommes puissent participer à la vie puis à la joie du Fils unique. C'est une générosité proprement divine que nous, hommes et femmes, ne pouvons imiter que de loin. Il faut d'ailleurs ajouter qu'en nous créant, Dieu a vraiment plaisir à regarder ce que nous faisons de bien. Mais ces considérations n'ont évidemment pas pour but de prouver l'existence d'une trinité de personnes en Dieu. Mais à partir du moment où l'on y croit, sur la parole de Dieu qui est là, révélée, on est émerveillé. On est émerveillé par l'éclairage que ce mystère projette là, sur toute la condition humaine. Et en pétrissant les créatures de ses mains, Dieu y laisse quoi? Des traces du mystère trinitaire qui le constitue? On connaît la célèbre discussion théologique qui oppose depuis le 11e siècle les orthodoxes et les catholiques à ce sujet. Les catholiques chantent dans leur credo que l'Esprit procède à la fois du Père et du Fils. On appelle ça en latin « filioque ». Et cette expression apparaît à nos chers frères de l'orthodoxie comme une grave atteinte à la primauté du Père, source unique de tout l'être trinitaire. Mais nous pensons néanmoins que la formule du credo, pour plus récente qu'elle soit, correspond aux données évangéliques. Mais encore faut-il la comprendre, hein? Il est bien vrai que le Père est la source unique de tout l'être trinitaire, mais il est également vrai que le Père donne à son Fils tout ce qu'il possède, y compris le pouvoir d'aimer, justement, la capacité d'être lui aussi source d'amour. Alors le Fils ne reçoit pas l'amour de son Père comme on reçoit un trésor matériel ou comme on hérite d'un legs par testament. Non. L'Esprit Saint, n'est pas un avoir, mais c'est l'élan même de l'amour divin. Alors en recevant de son Père cet élan, le Fils reçoit le pouvoir de se donner à son Père avec l'élan même dont le Père se donne à lui. C'est ce qu'exprime en somme dans Saint Jean, Jésus au chapitre 16. « Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. » Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera, c'est au chapitre 16. D'ailleurs, si l'Esprit ne jaillissait pas du Fils, si l'Esprit ne procédait pas de lui, le Fils serait inférieur à son Père en amour, il me semble. Or, cela n'est pas pensable. Comment le Père pourrait-il être heureux si pareille inégalité existait? Bon, je ne veux pas blesser mes frères orthodoxes, mais cette doctrine catholique au sujet de l'Esprit-Saint nous fait mieux comprendre que le Fils et l'Esprit-Saint ne sont pas deux frères jumeaux qui procèdent l'un et l'autre du Père et qui réclament chacun leur part d'amour. Le Père n'a qu'un seul objet d'amour, son Fils, et le Fils n'a qu'un seul objet d'amour, son Père. L'Esprit-Saint n'est pas pour chacune des deux premières personnes de la Trinité une autre personne à aimer, mais c'est l'élan même avec lequel elle s'extasie devant l'unique objet de leur amour. J'espère que vous comprenez ça, ce qui n'empêche pas cet élan d'être une personne elle-même infiniment aimable. C'est le Père Durvoël qui dit « Il est une personne dans les deux, selon sa nature qui est d'être amour. Amour qui donne et amour qui accueille. Dans le Père, il est d'abord amour qui donne, qui engendre, puis amour qui accueille le Fils. Dans le Fils, il est d'abord amour qui accueille le don, qui se laisse engendrer, puis amour qui se donne au Père. » Alors tout entier occupé, si l'on peut dire, à être l'échange entre le Père et le Fils, l'Esprit-Saint, c'est l'humilité en personne, l'effacement même de l'amour. Et aussi lorsqu'il prend possession d'un cœur, hein, on le sait, il lui fait connaître cette joie de l'effacement. Oui. Par le nom que porte l'Esprit, on sait que l'on ne mettra jamais la main sur lui pour le domestiquer. Tant en la langue hébraïque, « roua », qu'en grec, « pneuma », et en latin, « spiritus ». Il s'appelle toujours le souffle, et son symbole, c'est le vent dont Jésus déclare, il souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Hein? C'est Jésus qui dit ça. Et ses autres symboles majeurs sont quoi? C'est l'eau vive et le feu. Un souffle n'est plus lui-même, une eau n'est plus vive, un feu étouffe dès qu'on les renferme. De même, l'esprit. Quand la pensée prétend le capter, l'enclore en des concepts, le soumettre au jeu des analyses, c'est ce qui arrive à l'Esprit-Saint. Mais nous verrons un jour, je vous ferai une émission sur l'Esprit-Saint. La réalité inexprimable de l'Esprit-Saint peut être expérimentée comment? Par les fruits qu'il produit en nous, par sa présence, et tel est le langage de l'Écriture. Hein? C'est Jésus qui dit à ses apôtres avant de les quitter, « Le monde ignore l'Esprit-Saint, mais vous, vous le connaissez. » Parce qu'il demeure chez vous. Que notre religion est grande et belle, que c'est beau, hein? Et je termine en vous lisant ce petit texte de Thérèse l'Enfant Jésus. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait, « Si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours, rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. » Eh bien oui, nous sommes habités par la Très-Sainte Trinité. Nous sommes des tabernacles de la Trinité.